Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, surtout après cette longue soirée que vous avez dû passer devant TF1. On va en parler bien sûr, mais une soirée aussi marquée par les révélations du quotidien, de l'émission quotidien de TMC sur le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Il a employé, il l'a reconnu lui-même, on peut employer nous-mêmes l'indicatif, ses filles lycéennes puis étudiantes en CDD comme collaboratrices parlementaires à l'Assemblée nationale entre 2009 et 2016, à partir de leurs 15-16 ans, 24 CDD en tout pour un total de 55 000 euros. D'abord, est-ce que vous étiez au courant ?
Non, je n'étais pas au courant.
Est-ce que ça vous surprend ?
Écoutez, vous savez, quand l'affaire Pélénope-Fillon a débuté, j'ai dit que le problème n'était pas d'embaucher des proches, mais de savoir s'ils avaient travaillé. On était peu nombreux à le dire, et aujourd'hui ça me permet de dire que la question essentielle, c'est de savoir si elles ont travaillé.
Alors, il y a un soupçon d'emploi fictif, un prétexte pour s'offrir un complément de rémunération. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, d'après Olivier Bois d'RTL, au moins à deux reprises, les jeunes filles étaient absentes physiquement du Parlement au moment du contrat. Bruno Le Roux le dit, mais elles ont travaillé à distance. Bon, d'abord, la somme, 55 000 euros sur 7 ans, est-ce que ça n'est pas beaucoup pour ces filles ? Et ensuite, s'il y a soupçon d'emploi fictif, est-ce que ça n'est pas comparable au soupçon d'emploi fictif du Penelope Gate ?
D'abord, c'est si, vous me permettrez de mesurer d'abord les faits. Mais toute peine mérite salaire. Le problème pour moi, c'est le travail. S'il y a du travail, eh bien, le député le rémunère. S'il n'y a pas de travail, vous auriez raison, c'est un emploi fictif. Pour l'instant, rien ne me permet de dire que c'était un emploi fictif.
C'est banal d'embaucher ces jeunes filles, des jeunes filles adolescentes, pour des contrats courts à l'Assemblée nationale.
Vous savez,
les Français vont se poser la question.
Oui, les Français se posent la question. Mais moi, depuis le début, je dis que le problème n'est pas d'embaucher ou pas ses proches, c'est est-ce que le travail a été effectué ou pas.
Donc vous demandez
si le travail n'a pas été effectué, vous avez raison, c'est un complément de salaire. Et là, c'est un vrai problème. Et moral, et politique, et éthique, et tout ce que vous voulez. Si les gens ont travaillé, franchement, il n'y a pas de... D'abord, c'est légal, et ensuite, il n'y a pas de quoi critiquer.
Et Bruno Le Roux doit maintenant apporter la preuve, comme ça l'est demandé à François Fillon, qu'il y a eu, évidemment, un emploi derrière la rémunération.
Tout à fait.
Et pour l'exemplarité, pour éviter que se produise un feuilleton au poison lent pendant cette campagne électorale, est-ce qu'il doit se mettre en retrait de ses activités de ministre de l'Intérieur ?
Vous savez que le poison long et lent est déjà là depuis longtemps. Hein, dans nos débats, à part la fenêtre d'hier soir, un peu longue, mais la fenêtre d'hier soir, nous avons beaucoup plus parlé des affaires que du fond. Je ne crois pas que Bruno Le Roux n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il fait très bien son travail. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi il devrait se mettre...
Au nom d'exemplarité. Il est ministre de l'Intérieur. Il y a un soupçon maintenant qu'il va devoir lui-même évacuer.
Ne faisons pas démissionner les gens ou mettre en retrait les gens à partir d'un soupçon. Quand il y a des preuves, oui. Mais l'ère du soupçon... surtout médiatique, me semble pas une bonne mesure de régulation.
Donc, vous ne lui demandez pas de se retirer, il va voir Bernard Cazeneuve tout à l'heure, comme l'a révélé RTL hier soir, vous ne lui demandez pas de présenter sa démission.
De toute façon, ce n'est pas à moi de le faire, ce serait au Premier ministre.
Et vous ne le souhaitez pas. Au moins 103 députés sur 572 ont des liens familiaux avec leurs assistants, c'est ce qu'avait inventorié le journal Le Monde quand a éclaté l'affaire Fillon. Comment tourner la page ? Comment faire en sorte ? Bruno Le Roux lui-même était venu dire ici qu'il ne fallait pas embaucher ses conjoints.
Il n'avait pas embauché ses conjoints puisque c'était ses filles. Mais moi, je crois qu'il faut fixer des règles. Ces règles, elles ont été fixées. Si on doit les faire évoluer, elles doivent évoluer. Mais honnêtement, ce n'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les assistants des parlementaires font le travail pour lequel ils ont été embauchés ? Il n'y a que ça qui est intéressant. Il n'y a que ça qui est important. Et ce n'est pas facile, parce que vous avez du travail en circonscription, vous avez du travail au Parlement, des parlementaires préfèrent avoir du travail en circonscription, d'autres avoir du travail au Parlement, les troisièmes veulent un travail administratif, ça va de classer des coupures de journaux jusqu'à travailler sur un texte de loi.
Donc, pour finir avec cette affaire, parce qu'encore une fois, les Français vont être frappés par le jeune âge des jeunes filles. 15-16 ans, est-ce qu'il y a un travail derrière? On le saura plus tard, Bruno Leroux l'expliquera, mais pour vous, est-ce qu'il y a quand même là quelque chose de dérangeant, d'embarrassant dans ce qui est dit sur Bruno Leroux?
Ça dépend quelle tâche. Si on me dit que c'était pour suivre la commission des lois, évidemment, 15-16 ans, c'est un peu jeune. Mais s'il s'agit de faire du classement, il n'y a pas d'âge.
Bon, vous êtes pour l'instant extrêmement indulgent à l'égard de cette affaire, on verra. Premier débat, qu'est-ce que vous en retenez, Jean-Christophe Cambadélis, à part la durée, 3h15?
J'ai été frappé par la faiblesse de Marine Le Pen. Une impréparation totale, une non-maîtrise des sujets. Pour la première fois, on a vu la leader du Front National pas au niveau.
Sur les questions d'immigration, sur tous les sujets. Vous l'expliquez
par l'invective,
par un complexe de supériorité compte tenu
elle pense être au deuxième tour et elle pense ne pas avoir de compte à rendre. C'était très frappant sur tous les sujets.
Donc elle a raté son débat.
Oui.
Et qui a gagné?
Bon, vous savez, on vient ici pour défendre celui qu'on soutient. Et d'ailleurs, les sondages font la même chose.
Par principe.
Donc, bien sûr, par principe. On n'est pas là pour soutenir.
On
n'est pas là pour soutenir les autres. Donc,
on peut avoir de l'honnêteté.
Mais on peut avoir de l'honnêteté, des principes. Les deux sont pas incompatibles. Moi, je pense que Benoît Hamon, à la fois, était solide. Et c'est le seul qui a éclairé l'avenir. C'est le seul qui a parlé de ce que sera la France demain, avec ses transitions sur le plan du travail, sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'Europe, sur le plan de l'écologie. Les autres c'était leur choix, dans le régalien du moment. Lui, il était dans le quotidien de demain.
Mais hier, Julien Drey, à votre place, lui demandait d'arrêter de taper sur Emmanuel Macron et de concentrer plutôt ses tirs sur Jean-Luc Mélenchon. Il ne l'a pas écouté. Il a été plutôt pugnace.
Il a eu une passe d'arme avec Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas suivi jusqu'au bout.
Sur la
question de Poutine, ce qui est un débat très important.
Oui, c'était le seul sujet sur lequel ils ont reconnu
des désaccords. Des désaccords sur la question du revenu universel.
C'était courtois entre les deux.
À gauche, on est courtois.
Oui, il l'a moins été avec Emmanuel Macron. Il a été plus pugnace.
J'ai l'impression que Benoît Hamon ne considère pas Emmanuel Macron comme un homme de gauche. Il m'a semblé dans le débat. Donc, il est plutôt courtois avec Jean-Luc Mélenchon, même si moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon porte une énorme responsabilité sur la division de la gauche.
Mais il a été bon hier soir. C'est lui qui a remporté, entre les deux candidats à Mélenchon, c'est plutôt Mélenchon qui a remporté la mise hier soir.
Moi, je pense pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a été, comme d'habitude, un battleur. Mais est-ce que pour autant, il est juste? Est-ce que pour autant, il est convaincant? Est-ce que pour autant, les propositions qu'il fait à la France permettent à ce pays de se redresser? C'est ça le débat. Pas simplement si on est bon ou on a la manière de faire.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est dans une campagne où, effectivement, la télévision a beaucoup de place.
Jean-Christophe Cambadélis,
c'est une nouvelle donnée, c'est une campagne cathodique, effectivement. Donc,
oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une campagne cathodique et ce n'est pas encore une campagne sur le terrain. Mais elle va le venir sur le terrain et vous verrez que c'est les organisations et les partis qui ont des représentants sur le terrain qui feront la différence. Ce n'est pas simplement la télévision.
Bon, vous avez suffisamment de militants pour, sur le terrain, faire la différence.
On l'a démontré ce week-end.
À Bercy, sur le terrain, pas tellement. Il n'y a pas énormément de militants qui font
Mais moi, vous savez, moi, je constate qu'il n'y a pas de militants sur le terrain. Peu, je vois beaucoup de socialistes, mais je ne vois pas d'autres formations politiques.
Emmanuel Macron était le plus attendu, puisque jamais vu encore dans cet exercice. Il a été bon ou il a eu les faiblesses du débutant?
Il a surjoué, on peut dire.
Surjouer quoi, l'opposition?
Une position centrale. Je suis d'accord avec l'un, je suis d'accord avec l'autre. Ce qui montre que ce sera un président, s'il était président, qui serait d'accord avec tout le monde, mais qui n'aurait pas, pour autant, de colonne vertébrale.
Il a surjoué aussi son opposition à Marine Le Pen?
Non, là, il a été piqué au vif. Et il a bien répondu.
Il a bien répondu.
Vous voyez, moi aussi, je peux faire des
compliments. Donc vous l'avez trouvé à la hauteur dans son duel avec Marine Le Pen, qu'il essaye d'installer. Et Marine Le Pen aussi, d'ailleurs, était assez...
Oui, ils se sont choisis pour le second tour, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient qualifiés, et l'un et l'autre, au second tour, malgré les sondages.
Ouais. Une auberge espagnole.
Souvenons-nous de ce qui s'est passé aux Pays-Bas.
Ouais. Une auberge espagnole, Emmanuel Macron.
Bah écoutez, quand vous avez Madeleine d'un côté et Robert Hue de l'autre, franchement, pour les mettre d'accord, ça ne va pas être simple. Hein.
Oui, mais c'est un candidat. Aussi, on a inventorié ses parrainages. Plus de la moitié des 1829 signatures pour Macron proviennent d'élus de gauche.
Les ralliements sont de gauche et les électeurs sont de droite. C'est ça le macronisme.
Oui, et sur les 12 membres du gouvernement détenant un mandat d'élu local, seuls 4 ont signé pour Benoît Hamon. 8 se réservent, éventuellement se rallieront.
Parce que c'est des élus. Parce que
Il faut avoir un mandat.
Voilà, ils ne l'ont pas tous.
Eh bien, sur les 12 membres du gouvernement détenant un mandat d'élu local, seuls 4 ont signé pour Benoît Hamon.
Ils étaient 8. Ils étaient 8, puis le Premier ministre, hier soir, au Bureau national extraordinaire du PS pour la mobilisation pour Benoît Hamon.
Ouais. Ils ont été sévères à l'égard de Manuel Valls, qui, quelques jours plus tôt, a refusé son parrainage, justement.
Oui, il y a eu des expressions sévères du Premier ministre, en
particulier. Bernard Cazeneuve.
Oui.
Il a un jugement sévère sur Manuel Valls qui n'a pas.
Non, il a eu un jugement, comme souvent, Bernard Cazeneuve est extrêmement subtil, et il a stigmatisé tous ceux qui manquaient à leur parole. Et je crois qu'il ne visait pas seulement Valls.
Il visait entre autres Manuel Valls.
Pas seulement.
Ouais, et il demande au ministre de ne pas rallier Emmanuel Macron.
Oui.
C'est son souhait.
Oui.
Comme Premier ministre, il ne ralliera pas lui-même Emmanuel Macron.
Absolument.
Et il demande aux autres ministres de ne pas le faire, y compris Jean-Yves Le Drian.
Ah ben ça, c'est le débat entre le Premier ministre et son ministre de la Défense.
Et vous, ça vous choquerait qu'il le fasse, le ministre de la Défense ?
Je pense qu'il ne le fera pas, j'espère, en tous les cas.
Vous l'espérez. Voilà l'espoir de Jean-Christophe Cambanélis ce matin sur RTL.
Concernant Bruno Le Roux, la question reste, y a-t-il un vrai travail ? Et pour l'instant, rien ne prouve que ce ne soit pas le cas, nous dit Jean-Christophe Cambanélis, qui ne souhaite pas en substance la démission du ministre de l'Intérieur. Le premier secrétaire du Parti Socialiste nous dit avoir été frappé par la faiblesse de Marine Le Pen. Aucun travail lors du débat. La campagne se gagnera sur le terrain et avec les appareils politiques, nous a dit Jean-Christophe Cambanélis. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.